Dans le cadre de l'exposition personnelle de Kaponi Kiwanga Sima Sima, le Centre d'art contemporain d'Ivry, le CREDAC, organise une série de tables rondes d'avril à juin 2021. Pour cette table ronde numéro 2, nous avons convié Marcos Avila Forero et Malcolm Ferdinand autour de la question « Comment des histoires de domination, en particulier coloniale, ou encore comment l'impérialisme, influence des questions d'écologie et d'économie ?» Notre premier intervenant, Marcos Avila Forero, est un artiste franco-colombien. Il a exposé entre autres au CREDAC lors de l'exposition Tout le monde en 2015 et lors de la récente exposition La vie des tables en 2020. Il est lauréat du prix Ricard en 2019. C'est pourtant en tant que vice-président de l'association Ciudadanías por la Paz qu'il participe à cette deuxième table ronde. Citoyenneté pour la paix est une initiative de Colombiens résidant à l'étranger en faveur du processus de paix en Colombie et œuvrant directement en collaboration avec les populations paysannes colombiennes dans ce sens. Malcolm Ferdinand, quant à lui, est philosophe, docteur en sciences politiques de l'Université Paris Diderot et chercheur au CNRS. Il est l'auteur d'une écologie décoloniale, Penser l'écologie depuis le monde caribéen, publié en 2019 aux éditions Seuil. Il y décrit, entre autres, comment la colonisation et l'imposition du modèle impérialiste dans le monde est à mettre en rapport direct avec les inégalités sociales, raciales et la crise environnementale. Enfin, Kaponi Kiwanga, également présente à cette table ronde, est une artiste chercheuse franco-canadienne. Son travail s'intéresse au récit, dessinant une asymétrie du pouvoir et à mettre en lumière les témoins parfois inattendus de ces histoires.
Donc, j'aimerais peut-être commencer d'abord en faisant part d'une dénonciation qu'avec plusieurs organisations, nous sommes en train de faire en ce moment très grave qui vit la Colombie, dans le cadre des grèves nationales populaires qui se tient depuis le 28 avril, donc depuis 11 jours à peu près. Il y a une réponse extrêmement violente de la part du gouvernement colombien et aidée par des paramilitaires pro-gouvernement. Et donc, plusieurs ONG ont déjà croisé des chiffres pour arriver à un chiffre de 1814 cas de violences policières en 10 jours, dont 39 morts, plus de 300 blessés graves et plus de 10 agressions sexuelles envers des manifestantes. Sans parler des dernières victimes de ces deux derniers jours reportés entre hier et aujourd'hui. Donc je veux aussi dénoncer dans un regard un peu moins immédiat de l'assassinat sélectif de plus de 1160 défenseurs des droits humains et environnementaux en l'espace de seulement 5 ans, c'est-à-dire depuis la signature des accords de paix en Colombie, donc depuis que tout est censé aller bien chez nous. Et c'est là, ces assassinats qui se font dans l'indifférence la plus totale de la part du gouvernement, l'inaction la plus totale. Donc, je sais que parler ou introduire avec ça, ça peut sembler au premier abord un peu éloigné de ce qui nous réunit aujourd'hui, mais je pense qu'il y a moyen qu'on revienne plus tard pour voir comment finalement tous ces assassinats et toutes ces choses qu'on est en train de dénoncer là ont finalement un lien avec ce qu'on peut discuter. Du coup, je voudrais commencer d'abord par revenir sur ce que j'avais insisté dans notre échange, ce qui était d'inclure dans le titre de la conférence le terme d'impérialisme et non pas seulement de colonialisme, car c'est vrai que la différence souvent peut ne pas être claire et on a même tendance des fois à considérer que l'impérialisme serait en fait comme une forme plus soft, plus diplomatique, voire plus moderne du colonialisme. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire, car le colonialisme n'est qu'un moyen et l'impérialisme l'objectif. Autrement dit, le colonialisme n'est qu'une forme de l'impérialisme qui, lui, est plus englobant. En gros, l'impérialisme, c'est l'idée qui motive la pratique du colonialisme. Et c'est peut-être un aspect qui me semble très important, car d'une part, ça nous permet de nous débarrasser d'un mirage qui serait celui du passé, qui serait déjà passé, parce que souvent on parle de colonialisme comme quelque chose de passé. Donc d'une part, ça nous débarrasse de ça, mais surtout parce qu'à partir de là, on peut analyser le problème de l'impérialisme et de l'écologie en tenant en compte un concept qui est plus large, qui est celui de la territorialité, dans le sens anthropologique du terme, c'est-à-dire à différencier de la notion d'espace qu'on entend comme une espèce d'horizon, de périmètre qu'on pourrait venir occuper comme on l'entend, et qui est une chose très différente du territoire qui, lui, par essence, est toujours occupé. Occupé par des populations, mais aussi par des fleurs, par des animaux, par des schémas naturels, artificiels, et qui interagissent entre eux. Et que donc, pour comprendre qu'un territoire, et de comprendre qu'un territoire est l'espace du politique par excellence. Car on ne vient pas l'occuper, mais on vient, on interagit avec lui, on dialogue avec lui, on négocie avec lui, et donc on le reconnaît, on reconnaît son existence, et aussi le fait qu'il s'autodéfinit d'une façon probablement différente de celle dont nous-mêmes on le définit. Mais l'impérialisme, lui, fonctionne sur un principe de régner la territorialité, de régner l'autre, de ne pas le reconnaître, de ne pas reconnaître son existence, ni le fait que c'est un acteur du territoire, de ne pas reconnaître le fait qu'il a un droit légitime à être reconnu en tant que tel, en tant qu'acteur du territoire. En résumé, l'impérialisme ne considère pas des territoires, mais des espaces à occuper, physiquement, ou culturellement, ou politiquement, ou économiquement, ou tout ça à la fois. Mais dans les territoires, là, dans les territoires dans lesquels, en tout cas, nous, avec notre association et moi, on travaille, avec les organisations sociales, localement, et qui se battent pour leurs droits depuis des décennies, nous parlons des conflits socio-ambientaux. Donc, vous voyez déjà qu'on ne dissocie pas l'ambiental du social, mais en plus, on parle aussi du conflit, et non pas uniquement de problème. C'est-à-dire qu'on comprend déjà, dans ce territoire-là, qu'il y a plusieurs acteurs, et que la résolution du problème passe par le besoin du dialogue, et donc d'abord par la reconnaissance du fait qu'il existe différents acteurs, et donc de la territorialité du problème. J'irai jusqu'à dire ensuite qu'on comprend dans ces territoires en lutte même l'organisation sociale comme un besoin primordial pour pouvoir résoudre ce conflit.
Donc à mon tour, et merci pour cette invitation, c'est un bonheur de pouvoir rencontrer Marcos aussi à l'occasion de l'exposition réalisée par Capponi. Alors, je vais parler effectivement avec cette casquette de chercheur en sciences humaines, sciences politiques, philosophie, qui s'est intéressé depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, aux questions liées à l'environnement, au conflit, à cet environnement, avec une focale, on va dire, assez importante dans la Caraïbe. Je suis moi-même martiniquais, j'ai grandi là-bas, j'ai encore de fortes attaches à la Caraïbe, mais avec un horizon, on va dire, mondial, c'est-à-dire de voir ce que les logiques mondiales, comment ça se traduit, tout ça, dans la Caraïbe. Donc effectivement, j'ai publié un livre qui s'appelle « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen » il y a à peu près 2 ans, dans lequel j'essaye de conceptualiser, de réfléchir à ce que signifie réfléchir aux enjeux écologiques à partir de territoires qui ont été marqués, fortement marqués, par une longue histoire coloniale, impériale, une longue histoire de conflits et de violences. Et ce qui, on va dire, la question qui m'a animé, enfin, l'une des questions qui m'ont animé, à laquelle finalement je trouve que l'exposition de Capponi aussi participe à y répondre, et celle-là, comment habiter la Terre? Comment la Terre est-elle habitée? Et cette question peut paraître naïve, on peut se dire, ben, habiter c'est simple, si on est sur Terre, on habite la Terre, eh ben, pas si rapide que ça. Au contraire, et c'est ce que j'essaie de montrer à travers la région Caraïbe, c'est que habiter la Terre a été adossé à un ensemble de directives, de mesures que j'ai nommées l'habiter colonial. Voilà, la première scène où on voit la forme de la plantation prendre scène est aussi importante parce que cela veut dire qu'on va refuser des modes d'habiter, autochtones, pluriels, avec des cultures vivrières, avec différentes langues, différentes façons de nommer les plantes, etc. Et on va imposer une manière standardisée, qui se répète, qui est identique, dans des buts de profit capitaliste, en fait, hein, d'enrichir une petite partie de l'humanité. Et cela, on va le reproduire à la fois durant la colonisation, mais aussi durant l'impérialisme, à toute la Terre. Un exemple très bête, Vous regardez la banane qu'on va trouver, qui vient aussi parfois de Colombie, hein, qu'on va trouver ici au carrefour à l'autre. Bah, c'est la même banane qu'on trouve en Martinique, c'est la même banane qui va être fabriquée, enfin celle qui est exportée. Celle qui est exportée. Donc on a une standardisation qui est faite aussi de l'ensemble de violences. Donc voilà, j'essaie de travailler, de conceptualiser cette affaire pour plusieurs raisons. D'une part, pour pointer que l'on ne peut réfléchir à la manière dont la terre est habitée sans prendre en compte cette histoire coloniale et impériale, sans prendre en compte les esclavages qui ont été adossés à cette manière d'habiter la terre, la traite négrière transatlantique, où on a fait venir de force une dite main-d'œuvre capturée, réduite en esclavage pour produire tabac, coton, indigo, café, sucre, et aujourd'hui, banane et ailleurs. Mais pareil, main-d'œuvre qu'on a aussi utilisée pour exploiter, enfin donner lieu à l'extractivisme, d'exploiter les ressources minières, les dites ressources minières de la terre. Et ce processus-là, pour bien comprendre, ne va pas de soi. C'est-à-dire que ce n'est pas de soi que un paysage, un territoire soit perçu comme une ressource à des fins capitalistes. Il y a tout un processus philosophique qui dit, tiens, la montagne, je ne vois pas un être spirituel qui représente peut-être le lieu de ma naissance, mais ça devient un chiffre réduit. Tiens, on va trouver tel mètre cube de coltan, de ressources fossiles, etc., etc. Et tout cela, bien sûr, on contrôle des corps. Enfin, pour le coup, quand on circule dans l'exposition de Caponi, on voit qu'il y a une sorte de limite biopolitique. On peut aller dans ce sens-là, mais pas dans ce sens-là. On doit cacher. Et un rapport avec la matière qui est extraite de cette plantation. Donc c'est tout ce processus qui est d'une violence qui nous est masquée, en fait, qui nous est masquée, surtout quand on vit dans des grandes villes, dans des grands centres urbains où finalement les ressources, enfin les productions de ces plantations nous arrivent sur notre table. On ne voit pas toute cette violence qui est masquée. Donc j'ai voulu travailler là-dessus et explorer en fait comment on s'en sort en fait depuis cette habitée coloniale, comment on trouve des solutions, des pistes, des résistances pour proposer autre chose et pour prendre soin de son corps.
Oui, du coup effectivement là directement je pense que je peux réagir à ce que tu dis en parlant de cette question de culture paysanne et d'une forme de lutte qui se met en place en Colombie, qui a été très stigmatisée, très malmenée, qui est la formule de la zone de réserve paysanne, qui consiste à considérer quelque chose que dans beaucoup de territoires on a déjà oublié, qui est que la paysannerie c'est une culture, et à différencier la culture paysanne avec le producteur agricole. C'est une chose, et la culture paysanne va dans un panel large de ce qui est la culture en général, c'est-à-dire qu'il va de j'ai une méthode de semer de cette façon-là dans ce territoire avec tel type de graines, jusqu'à on chante et, de cette façon-là, on a ces chants-là et on a cette cuisine qui font partie de la culture paysanne. Pour donner un exemple de ce qui aurait pu exister en France de cet ordre-là, parce que souvent quand je parle de culture paysanne, chose qui existe encore en Colombie, mais en France pratiquement disparue, ça peut sembler un peu abstrait. Mais on se rappelle par exemple dans les fesnos ou dans le truc dans lequel il y a des chants et des danses, dans lesquels on se tient en rang et on danse d'une façon qui en réalité reprend une pratique qui est celle de marcher sur les... qui reprend un besoin d'agriculture. Ou par exemple le pot-au-feu ou des choses comme ça, qu'à la base le pot-au-feu c'est son viande d'ailleurs, mais qui sont des formes de culinaires qui viennent aussi d'une dynamique plutôt d'ordre paysan. Et qu'aujourd'hui en France sont devenus du folklore plus que de la tradition, puisque plus pratiqués de façon quotidienne. Mais en Colombie on a encore ça. On a encore une culture paysanne avec ses formes, ses musiques, ses plats, ses culinaires, mais aussi une perception du territoire, de l'habitat, qui est très différente, qui a une triangularité entre le cadre social de l'agriculteur, du paysan, la terre et l'habitat. Et cette forme-là se bat du coup contre des formes d'impérialisme comme la question des graines type Monsanto ou des graines comme ça, les graines transgéniques, Parce que une des bases de la culture paysanne, c'est je cultive, je récolte, et la partie, la meilleure de ma récolte, 5% ou 10%, va être destinée à la prochaine, cultivation, on dit en français, à la prochaine culture. Et c'est un processus qui se perpétue comme ça et qui tient compte d'un certain nombre d'éléments. Or, aujourd'hui, par cette forme d'impérialisme, on impose dans les territoires des graines qui ne sont pas celles natives, qu'on peut appeler des natives, et qui menacent des différents aspects, des différentes formes, non pas seulement la culture paysanne, mais la souveraineté alimentaire, la santé, l'écologie, et qui se traduisent par même des formes de lois très violentes, comme en Colombie, je parlais de la loi 970, qui est une loi qui interdit de commercialiser des graines comme ça, et on peut tout à fait détruire ces agricultures traditionnelles si on veut les commercialiser.
Ben, je veux rebondir aussi sur ce que tu dis, que je rejoins tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a eu une... dans cette manière d'habiter la terre, qui, quand je parle d'habiter colonial, je ne me place pas uniquement dans les anciennes colonies. L'habiter colonial est présent aussi en France hexagonale. Et donc, il y a eu cette... avec ce capitalisme, avec ces formes de domination des manières d'habiter la terre, une marginalisation progressive, on va dire, des cultures paysannes. Mais en même temps, et je crois qu'il faut quand même être assez clair là-dessus, il persiste et il existe encore... des cultures paysannes en France hexagonale, tout comme dans les Outre-mer, et j'imagine ailleurs comme en Colombie. Et pourquoi c'est important de le dire? Parce que si on repart par exemple de l'esclavage qu'a connu aussi, la Colombie, le système esclavagiste en tant que tel, à travers la plantation coloniale, était précisément contre l'émergence d'une paysannerie. Pourtant, à travers ces résistances, des paysanneries ont émergé, donc qu'il s'agisse des Saramaca, des Bushinengue au Suriname et en Guyane, qu'il s'agisse des Mornes, des paysanneries des Mornes en Martinique et en Guadeloupe, il y a de très beaux travaux là-dessus. Et c'est le fruit de ces résistances qui font que des cultures continuent à exister avec des chants, avec des danses, avec une certaine cosmologie, avec des dieux, avec des légendes, dont il est important de reconnaître. Et tu parlais notamment des législations, enfin des lois qui vont favoriser finalement un certain type de culture destructeur qui ne permet pas la reproduction. On l'en retrouve totalement dans le rapport entre France hexagonale et territoires d'outre-mer, où ces territoires, par exemple, vont être sujets à une intensité sans commune mesure d'usage de pesticides, d'herbicides, etc., dans une mesure intense, un peu plus intense que ce qu'on trouve déjà en Hexagone, qui est aussi intense. Voilà.
Alors effectivement, il y a cette question des pesticides qui est très complexe, et effectivement, je vois ce que tu dis qui est très important, d'une utilisation qui est totalement inégale dans des territoires qui sont les territoires français, mais qui sont considérés autrement. Et on a plus ou moins la même chose, enfin ça se traduit par des formes différentes, mais en Colombie on a une espèce de sorte de piège comme ça, comme par exemple des traités de libre commerce qu'il y a par exemple entre l'Europe et l'Amérique latine, et la Colombie en l'occurrence ici, je vais parler. Et ces traités de libre commerce, en théorie, tient compte d'un certain nombre de règles qui seraient des règles écologiques, des règles des droits humains, qui, dans la pratique, sont purement illusoires. C'est juste pour faire une espèce de façade. C'est-à-dire, ces normes, en théorie, diraient que si la Colombie ne respecte pas, enfin, si des deux parts ne respectent pas la Charte internationale des droits humains et de l'environnement, tout ça, que le contrat pourrait être rompu. Or, avec différentes organisations, on ne sait pas depuis très longtemps, pour faire reconnaître à l'Union européenne et aux instances internationales le fait qu'en Colombie, il y a un non-respect des droits sociaux, des droits humains et des droits environnementaux. Et en fait, il y a un rapport de dynamique d'intérêt et des forces d'intérêt, des forces de pouvoir qui font que, en fait, ça reste que dans le papier. Et notamment par rapport à la question du glyphosate, qui est interdit en théorie en France, mais effectivement on voit qu'il est interdit de différents niveaux. En Colombie, on s'en sert d'une façon qui est très grave, parce qu'on ne s'en sert pas dans un but d'agriculture, mais on s'en sert comme une arme pour se combattre la culture de la feuille de coca, qui sert, dans le contexte colombien, dans sa grande majorité, à la production de cocaïne, d'exportation de la cocaïne. La Colombie, même s'il y a quelques territoires indigènes qui ont une culture traditionnelle de la feuille de coca qui est totalement zen, on va dire, il faut malheureusement avouer que la plupart du territoire, 97% de la production de feuilles de coca, c'est pour la cocaïne, et ces territoires indigènes sont très malmenés, très stigmatisés en relation à ça. N'empêche, il faut comprendre une chose, c'est qu'un paysan en Colombie qui cultive de la feuille de coca ne cultive pas la feuille de coca parce que ce soit le super business de l'année. Il cultive la feuille de coca parce que c'est la seule chose qu'il arrive à vendre. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de communication. Il y a très peu de... L'État n'existe pas dans la plus grande majorité de la Colombie. Et donc, ces paysans-là qui essaient de cultiver, par exemple, de la banane ou des choses comme ça, ne peuvent pas vendre cette banane-là parce que, d'une part, elle va être abîmée dans le chemin à Dodan jusqu'à une route dans laquelle le camion pourrait venir chercher cette banane-là. Donc, elle va être tellement abîmée qu'elle est invendable. Mais en plus, parce que les monopoles de la banane et d'autres produits vont l'empêcher de vendre ça à un prix suffisamment intéressant. Et donc, en réalité, la banane, théoriquement, pourrait être, ces paysans-là gagneraient plus à vendre de la banane qu'à vendre la feuille de coca. Donc, il vit de façon misérable avec la feuille de coca. Mais c'est la seule chose qu'il arrive à cultiver. Et dans une politique instaurée aussi par des pressions, justement, des États-Unis et tout ça, pour combattre la cocaïne, la culture de la feuille de coca, eh ben, on va asperger de glyphosate des territoires entiers, mais de façon très concentrée, avec cet pesticide qui normalement est interdit d'ailleurs, mais qui là est fait pour que, aspergé par avion de façon totalement aléatoire, va brûler, littéralement brûler, toutes ces cultures-là. Mais avec des conséquences très graves. D'une part, parce que ça tombe sur l'eau, donc ça contamine l'eau de façon très grave, ça tombe sur les populations, dans leurs maisons, chez les enfants, et on a eu beaucoup de cas, par exemple, des enfants avec des malformations suite à une exposition de ce type-là, mais aussi, donc ça détruit, ça contamine l'eau et ça contamine la terre de façon très longue durée, et donc ça rend ces territoires incultivables. Et donc, une impossibilité totale des paysans de cultiver, de recultiver ces terres, et donc d'avoir une alternative économique viable. Enfin, ça les condamne à une mort économique.
Alors, pour faire le lien entre ce que je disais sur les bêtises coloniales et les pesticides, il faut se poser la question, mais en fait, quel est le rôle des pesticides? Quel est le rôle, notamment après cette révolution verte, où on a vu l'utilisation d'un ensemble de produits comme le DDT, d'autres herbicides, etc., organophosphates, organochlorés. Et bien sûr, les entreprises agrochimiques vont dire le rôle des pesticides, c'est de tuer les éléments qu'on considère comme étant nocifs à la culture. Des pestes, des insectes, des champignons, des vers. Cela est faux. Il faut le dire clairement, cela est faux. Le rôle des pesticides est double, à mon sens. D'abord, il s'agit de pouvoir prolonger l'habité colonial. C'est-à-dire prolonger cette façon d'habiter la terre extrêmement violente, avec un contrôle des corps, un contrôle des écosystèmes, avec une standardisation de cet habité et le refus de laisser place à d'autres manières d'exister. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, son rôle est bien sûr de permettre la poursuite du capitalisme, la poursuite du productivisme, donc la poursuite de l'accroissement des inégalités entre une petite partie qui va avoir beaucoup de sous et une petite partie qui va avoir presque rien, ne pas avoir ses droits fondamentaux respectés, etc., etc. Tel est le rôle des pesticides, y compris des OGM. Alors, cette utilisation massive de pesticides, alors on distingue les herbicides, les nématicides, fongicides, il y en a ensemble, mais bon, globalement, cette utilisation conduit à deux types de violences. Il y a ce qu'on appelle les violences lentes, que Marco a déjà esquissé en partie, c'est-à-dire les conséquences de l'utilisation chronique sur longue durée des pesticides, où on va avoir des intoxications, on va avoir des problèmes de cancer de la peau, notamment avec le glyphosate, ou alors des problèmes de cancer de la prostate, quand on pense au chlordécone aux Antilles, alors peut-être j'en parlerai un peu plus tard, des malformations, voilà, un ensemble de... C'est-à-dire que ce sont des violences qui se manifestent dans une longue durée, qui n'est pas forcément tout de suite après l'exposition aux pesticides, voilà. Et en même temps, il y a aussi un ensemble de violences beaucoup, beaucoup plus rapides qui sont en lien avec cette habitude coloniale. Donc, quand on pense aux groupes armés qui vont avoir pour fonction de défendre les plantations dans certains pays d'Amérique centrale. Quand on parle, Marco aussi il faisait référence sur les nombres de militants activistes et notamment de peuples autochtones qui sont assassinés chaque année. Le but de ces assassinats est de dissuader toute résistance. Et dissuader toute résistance à quoi ? À l'habité colonial. Et donc ces deux formes de violence fonctionnent ensemble. Et on le voit très bien à la fois dans l'affaire du glyphosate et de la cocaïne, où finalement il y a une façon d'habiter la terre qui est maintenue au prix d'une exposition extrêmement dangereuse à des peuples locaux. Et d'ailleurs, il faut aussi rappeler autre chose, il y a un fantasme du contrôle des pesticides. On dit, voilà, le pesticide, attention, si vous utilisez telle quantité, dans tel cadre, etc., ou si vous la répandez par voie aérienne, mais seulement dans ce périmètre-là, alors on contrôle, il n'y a pas de... C'est faux. C'est faux aussi, il n'y a jamais... Et c'est un fantasme moderne de se dire, tiens, on va pouvoir contrôler une substance dont la fonction est dans son nom, tuer. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on utilise ce « cécide », entre guillemets, et qu'au final... les personnes qui habitent aux abords, parce que ça passe dans l'eau, ça passe dans les bassins versants, ça passe dans les aliments, on a des chaînes de bio-accumulation en fonction de la chaîne trophique, c'est-à-dire du petit prédateur au plus grand, enfin ça s'accumule, bref, ce qu'on répand dans le champ se retrouve dans nos corps et on en souffre. Donc, mais par rapport à ça, il y a, et c'est aussi dans ça que les résistances paysannes et en termes d'agroécologie, en termes de permaculture sont intéressantes, parce que non seulement elles proposent une autre manière d'habiter la terre, une autre culture, mais aussi le plus souvent un non-recours, l'absence d'utilisation de ces produits de mort, c'est que de ces produits toxiques. Et donc il est important de reconnaître ces résistances partout où nous sommes, que ce soit en Colombie, que ce soit en Martinique-Guadeloupe, que ce soit dans la France hexagonale, où là on a des exemples, peut-être qu'on souffre peut-être de ne pas se connaître assez. Et de voir que finalement, malgré nos différentes histoires, histoire coloniale esclavagiste, histoire de lutte paysanne contre les OGM ici, histoire de lutte avec tout ce qu'on sait comme conflit armé que l'on a aussi en Colombie, ou alors la question des... de l'huile de palme en Indonésie, ce qu'on voit dans l'extraction minière au Congo ou dans d'autres, enfin, que finalement tous ces différents groupes luttent contre à mon avis, ce capitalisme et cette manière coloniale d'habiter la terre. Donc on a tissé des alliances. On a tissé des alliances pour proposer autre chose.
En fait, c'est très intéressant quand tu parles du fait que qu'au premier abord, on a une perception sur ce à quoi serait utile un pesticide et tout ça, et qu'en fait, derrière, il y a autre chose, et je te rejoins totalement quand tu dis qu'en fait, l'enjeu principal, finalement, c'est de monopoliser. L'objectif réel des pesticides et de ce truc-là, c'est de monopoliser un territoire, de monopoliser l'alimentation, et du coup, de fait, de renier la territorialité, de renier la souveraineté alimentaire, de renier tout un tas d'éléments qui sont super importants. Et la question de la violence est extrêmement importante à ce niveau-là, effectivement. C'est-à-dire que quand on parle de 1160 dirigeants sociaux, enfin des défenseurs des droits humains et environnementaux dans les territoires, ils ont tué de façon ciblée, systématisée, parce que ces populations-là, qui sont dans les territoires, ne sont pas des gens qui viennent des ONG ou je sais pas quoi, à l'extérieur, machin, c'est vraiment des gens qui travaillent dans les territoires pour défendre leur territoire. Ils sont en objectif militaire parce que ce sont des gens qui construisent le tissu social localement. Et construire le tissu social localement est très important parce que ça permet de s'autodéfinir. Et c'est un peu ce que je disais au tout début de l'importance de l'organisation sociale, c'est-à-dire que avant tout, on comprend ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas à partir du moment où on se définit. Et quand on dialogue dans cette définition-là, qu'on la met en dialogue avec les autres définitions des autres territoires, des autres espaces, on dit, nous, on voit ça comme ça, vous voyez ça comme ça, voilà. Mais si on t'empêche de te définir, Si on t'empêche de créer un tissu social qui t'empêche de dire voilà ce qu'on est, voilà comment nous on veut exister, voilà comment nous on va vivre, comment on voit les choses, et bah ça quand tu peux pas te définir, bah tu ne peux même pas définir ce que tu veux, et donc on peut venir envahir ton territoire comme un espace qu'on vient juste, comme je disais tout à l'heure, poser des choses. Et donc cette violence là envers cette population là, c'est pour ça, c'est détruire le tissu social et empêcher la possibilité d'autodétermination, d'autoreconnaissance. Et j'ai des exemples très concrets dans des territoires dans lesquels, effectivement, j'ai pu parcourir certains territoires dans lesquels il y a eu, malheureusement, par la violence, comme par militaire, dans un lieu comme Montes de Maria, des populations qui sont vraiment en manque d'eau et des choses comme ça. Et qu'ensuite, il y a eu des multinationales qui sont arrivées pour faire de monopolisation de l'eau, de l'extractivisme et des choses comme ça. Et dans lesquelles, parce que les leaders sociaux ont été assassinés dans les années 80-90, la population s'est vue paralysée, avec une peur de pouvoir s'autodéfinir et revendiquer, et donc, non organisée, pas organisée, et donc quand ces projets-là arrivent, ils peuvent s'en compter de façon très simple. Par contre, dans d'autres territoires, comme par exemple la Sumapaz, qui est une zone, une des points stratégiques liés à l'eau en Colombie, mais je ne vais pas m'attarder pour expliquer le pourquoi, mais là-bas, il y a des organisations sociales qui sont très organisées, en syndicats paysans, en coopératives, dans différentes formes, ils font vraiment beaucoup de formes différentes d'organisations sociales, et qui leur ont permis de se constituer justement en centre des réserves paysannes et de défendre face aux intérêts extérieurs qui arrivent, à dire non, on n'en veut pas de ça, ou avec un tel d'accord, dialoguant, en discutant peut-être comme ceci, comme cela, mais sous nos conditions qui sont celles de nos besoins, de notre territoire. Mais ensuite, ils se voient tout de suite aussi stigmatisés. C'est-à-dire qu'on va tout de suite les associer, dans le cas de la Colombie, avec des guérillas. Donc toute personne qui défend des droits sociaux est systématiquement considérée comme étant un guerriero, et donc un objectif militaire, des militaires ou des paramilitaires, qu'il faut assassiner. Et on pratique comme ça une forme de violence dans le but de pouvoir s'accaparer ce territoire-là.
Alors, effectivement, la violence est un sujet important. Et là, je crois qu'il y a une dimension qu'il faut soulever, et qui est d'ailleurs très bien soulevée par l'exposition de Capuani, c'est la dimension genrée de cette violence. Elle ne s'applique pas de la même façon, finalement, pour les hommes et pour les femmes. Et cela passe, par exemple, par le travail dans les plantations. Cela passe par les possibilités d'accès à l'emploi pour les femmes qui non seulement se retrouvent à devoir gérer des choses à la maison et en même temps faire face à des situations économiques plus difficiles, à des droits qui ne sont pas respectés. Et je crois qu'il faut noter cette violence différente pour aussi reconnaître les formes de résistance différentes que mettent en place, les femmes. Et dans le cas de cette répression vis-à-vis des leaders du tissu social, vis-à-vis des résistants, il est aussi important de voir la place des institutions dans cette répression. Et l'une des institutions dont il faut parler, qui est en lien avec la plantation, est la prison. La prison comme espace où on va pouvoir stocker, parquer des personnes qui pourraient avoir une fonction sociale extrêmement importante dans la société, mais on va, pour reprendre l'expression de Marcos, retirer ces personnes du tissu social. Alors c'est extrêmement visible, on pense toujours aux États-Unis. Oui, les États-Unis, un prisonnier au monde sur quatre de toute la Terre se trouve dans une prison états-unienne, avec, on le sait, une plus forte proportion de noirs, de latinos et d'autres minorités raciales et ethniques dans ces prisons. Et ce que ça fait, ça empêche parfois des structures familiales de se maintenir, et on est dans un cercle vicieux où finalement le père n'est pas là, la mère doit faire plusieurs choses. Bon. On a vu ce que ça fait avec le bagne aussi en Guyane et aux Antilles. Mais cela se retrouve aussi ici en France. On sait, depuis le rapport du défenseur des droits, qu'un noir, jeune noir ou arabe a 20 fois plus de chances de se faire contrôler dans la rue. Et on sait qu'en termes de proportion, les noirs et les arabes sont plus nombreux dans les prisons. Et tout cela, il faut le penser comme atteinte encore à ce tissu social. Et parmi les résistances, je peux parler de ces formes de résistance qui sont multiples. J'aimerais revenir encore une fois sur l'histoire du marronnage, qu'on retrouve aussi, je pense, au palinqueste de San Basilio, il me semble, en Colombie, mais je pense que ce, qu'on soit en Haïti, on en a connu aussi en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, au Cap-Vert, enfin un peu partout dans l'espace. Parce que je pense qu'il faut aussi assumer cet héritage-là pour voir où on peut aller. Et comme les organisations syndicales, paysannes dont parlait Marcos, il y a eu ces organisations-là depuis le 16e, 17e, 18e siècle, de ces anciens esclavisés qui fuyaient la plantation et qui, dans les morts, parfois dans des mangroves, dans des montagnes, réussissaient à créer une autre manière d'être au monde, une autre manière de faire collectivité, qui n'était pas tout rose, tout idéal, mais qui était, en tout cas, une opposition claire et franche à l'exploitation de la terre, de la nature par la plantation, et à l'esclavage, la domination des êtres humains. Et je crois que c'est aussi voilà, le titre de l'exposition, Sima Sima, dont il faut quand même rendre compte.
Par rapport à ça, j'aimerais bien réagir, justement, quand tu parles des palenques, San Basilio, des éléments comme ça, il y a toute une histoire super importante, justement, en Colombie. La première forme d'indépendance face à la colonisation en Colombie, en réalité, sont nées justement dans ces palenques-là, et notamment avec Ben Cosbiojo, qui était un des personnages les plus importants des luttes sociales en Colombie et à l'époque, mais qui, effectivement, n'était pas un criollo ou un blanc, c'était un noir. Et parce que noir, pendant longtemps dans l'histoire, on ne l'a pratiquement pas tenu en compte. C'est le premier mouvement d'indépendance colombien, c'est un mouvement des anciens esclaves noirs qui se sont échappés des plantations pour se cacher dans ces villages cachés et revendiquer une forme d'autonomisation du territoire, de liberté. Et c'est que depuis très peu de temps qu'on se rend compte effectivement que oui, avant Simón Bolívar, avant tous ces personnages qui sont les criollos qui ont officiellement marqué comme l'indépendance, les premières formes d'indépendance de la Colombie, bah, en fait, il y a eu... Ben Cosbiojo et tous les palenques de San Basilio et de tous ces zones-là. Et c'est quelque chose de très important de reconnaître tous ces espaces-là qui, pour parler tout à l'heure de se définir, de se reconnaître, tout ça, qui peuvent être perdus si on ne les considère pas et qui ont besoin d'organisation. Pour réagir dans le même sens, El Chocó, qui est une zone en Colombie qui est la région la plus pauvre, la plus marquée par la violence, est une région à 97%, enfin je dis 97%, à presque 100% noir. Et parce que noir, région la plus pauvre, il n'y a pas d'accès, il n'y a rien, il y a juste, c'est une région plongée dans la violence la plus totale, parce que l'abandon le plus total de l'État. Et donc on peut considérer que ce serait un hasard de circonstances, mais bien sûr, non, c'est totalement une espèce de forme de racisme, voilà. Et je reviens sur la question de l'organisation sociale comme élément essentiel justement pour aussi cette question du genre, parce que j'ai un autre exemple là, du coup lié plus à la question de la femme, mais dans des territoires comme Sumapaz, que j'avais mentionné plus tôt, qui sont des territoires très organisés, et ben ça fait que la femme aussi se revendique en tant que telle dans ces territoires-là, et que donc on retrouve des formes super avancées. On croit souvent mal que les formes de féminisme et tout ça les plus modernes sont dans les villes, parce que voilà, c'est là où on est le plus en commun. Et en fait, moi je vois dans des territoires comme le Chumapas des formes super avancées de féminisme, parce qu'ils ont développé de modèles, par exemple, d'autonomie économique, des modèles économiques d'autonomie des groupes de femmes, qui est un facteur super important aussi pour l'indépendance et tout ça. Mais même, du coup, les organisations sociales elles-mêmes qui commencent à redéfinir des choses comme, par exemple, en fait, ils ne parlent pas des paysans, ils parlent de la paysannerie, pour mettre au féminin. Ils font exprès de parler de la paysannerie à chaque fois, c'est un truc systématique pour dire voilà, il y a des hommes, mais il y a des femmes aussi, et c'est super important. Tout ça, ça peut sembler juste une question de mots, mais c'est une question de se définir. Et cette définition-là, cette chose de se définir, permet de encore une fois, de revenir sur ce qu'on a besoin, quelles sont nos luttes, quels sont nos besoins, et comment y arriver, comment y parvenir, quoi.
Je pense que on a là un enjeu que j'ai voulu pointer à travers mon livre, que les mouvements écologistes, notamment dans les pays du Nord, doivent prendre en compte, qui est que ces mouvements, ces associations, pour partie, pas toutes, mais se sont construits avec peut-être un impensé ou un point d'ombre, par rapport à l'histoire coloniale, est-ce qu'il y avait du coup par rapport au racisme. Qu'on a fait comme si, en tout cas quand je me suis intéressé à ces questions-là, que j'ai rencontré pas mal d'associations et que j'ai lu pas mal de théories et d'auteurs qui travaillent sur les questions écologiques, on a fait comme si l'histoire de ces résistances à la colonisation et l'esclavage n'avait rien à apprendre sur ce qui était en jeu dans la crise écologique contemporaine, dans les façons d'y répondre. Et cela se remarque aussi, par exemple, par peu ou prou quelques formes d'exclusion au sein même de ces associations et de ces organisations aujourd'hui. On est en France, quand on cherche les personnes noires ou arabes qui sont actives, qui sont représentées dans le mouvement écologiste français, on a du mal en fait, à en trouver. Mais par contre, on oublie aussi tout ce qui se passe dans les Outre-mer. Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie. Et surtout, cela est non seulement, enfin, c'est problématique politiquement, mais écologiquement, c'est encore plus problématique quand on sait que 80% de la biodiversité nationale se trouve dans ces territoires. Et là, on a quelque chose qui rejoint aussi la question du genre, c'est que on va avoir des portions des populations, des peuples qui vont subir plus ces différentes formes de violence, qu'on soit femme, qu'on soit noir ou d'autres minorités, et d'une part, donc subir cette violence, mais en plus, on va avoir face à faire une invisibilisation au sein même des organisations qui y répondent. Ou finalement, par exemple, alors que les femmes assument une part importante de la paysannerie, ce ne sont pas elles qui vont accéder à des positions de leadership importantes. Et pareil pour les noirs et les racisés. Il y a une thèse qui a été réalisée par Gretel Navas sur l'Amérique centrale, qui d'ailleurs est très importante, mais que je vous invite à aller voir. Mais on pense aussi à un certain nombre de leaders femmes d'Amérique centrale, je pense à Francia Marquez, je pense à Besta Cáceres, bon, du coup, qui a été tuée par rapport à ça. Et voilà, je pense que, au fond, on a une base commune extrêmement forte dans ce que l'on veut comme monde. Un monde où on puisse avoir cette souveraineté alimentaire, où on puisse prendre soin de la terre, où on puisse prier nos propres dieux, où on puisse vivre ensemble, etc. Et conserver ces biais devient un obstacle. Je pense au contraire qu'il faut qu'on arrive à faire tomber ces murs pour pouvoir voir qu'ensemble, en fait, on a quelque chose d'autre à proposer face au capitalisme, on a quelque chose d'autre à proposer face à cette habité coloniale et à ces impérialismes.
Oui, effectivement, il y a ce rôle parce que d'habitude, je suis le premier à parler du capitalisme et là, on n'avait pas prononcé jusqu'à maintenant. Or, c'est un enjeu central finalement. L'impérialisme, c'est une forme aboutie de capitalisme. Enfin, on peut le considérer comme ça. Moi, je le considère comme ça. Et le capitalisme est un enjeu finalement extrêmement central dans tous les enjeux liés à l'écologie, à la question socio-écologique. Et ça me fait penser justement à la façon dont on peut comprendre, et quand tu dis le décalage justement entre la compréhension qu'on a de l'écologie depuis, qu'on peut avoir depuis les institutions, depuis même l'ONU, depuis des trucs comme ça, qui ne tient pas compte des enjeux territoriaux et des populations localement, et qui imagine que l'écologie est un problème, qui se ressout sans tenir compte de tes territoires. C'est-à-dire, en gros, il faut préserver cette zone-là, et ben, on va la mettre sous cloche, et comme s'il n'y avait pas de gens qui habitaient là, et donc sans se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là? Est-ce qu'on les sort? Est-ce qu'on reste là? Si on les laisse là? Et du coup, à un moment donné, on s'est dit, bon, on ne va pas les sortir, parce que quand même, c'est un peu une déportation. Donc, il faut les laisser sur place, mais du coup, comment est-ce qu'on va faire? On va créer un modèle économique de l'écotourisme, et donc on va commencer à imaginer comment rendre rentable l'écologie et implanter l'écotourisme sur place. Et sur place, il y a des organisations sociales que parce qu'organisées, parce qu'elles comprennent leur mode de vie, leur fonctionnement, et parce que c'est finalement eux ceux qui protègent les territoires, se disent, non, écotourisme, c'est n'importe quoi. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir continuer à exister dans nos formes de culture paysanne qui sont locales, qui ont toujours interagi avec les territoires, donc qui le connaissent et qui finalement le protègent. On est des acteurs qui protégeons ce territoire-là, mais pas sur des formes d'écotourisme ou machin, mais donner des alternatives économiques pour pouvoir continuer à produire, dans cette forme de souveraineté alimentaire, parce qu'il y a besoin d'alimenter les gens aussi, mais du coup de préserver les territoires avec ça. Et souvent, on va essayer de faire en sorte comme si ces populations n'existaient pas. On n'interagit pas, encore une fois, avec le territoire, on met sous cloche des espaces. Et je crois que le modèle capitaliste est extrêmement en cause dans cette façon de comprendre les choses, parce que le capitalisme a besoin de ces espaces à occuper en termes de capital et non pas à dialoguer en termes de territoire. Parce qu'il y a, par exemple, des ressources minières potentielles ou de l'eau ou des choses comme ça qu'on peut venir exploiter. Enfin, je me permets peut-être de sauter sur un truc pour parler de capitalisme, mais ça me fait penser à la question de la taxe carbone, par exemple, qui est une forme totalement absurde de soi-disant écologie à la capitaliste, dans laquelle on se retrouve avec des entreprises qui font du marché, qui vendent du carbone, qui vendent le droit d'utiliser et qui du coup finalement monopolisent aussi cette question-là.
Effectivement, la faculté du capitalisme à intégrer certaines problématiques pour se prolonger est assez remarquable. Et ce que montre Capuani, notamment avec le papier qui est réalisé avec la bagasse de la canne à sucre, est assez probant, parce que on voit bien qu'en fait, sous couvert d'une forme de recyclage, une forme d'écologie, enfin d'environnementalisme plutôt que d'écologie, on va pouvoir maintenir la forme de l'habitat colonial de la plantation en disant « Regardez, c'est bien, en fait, on fait du papier avec. » Et on va pouvoir maintenir les intérêts financiers. Donc cette forme de greenwashing, cette écologie totalement dépolitisée, existe dans tout un ensemble d'aspects. On va vendre des voitures électriques, mais derrière, on va augmenter les ventes de voitures SUV grosses, etc., sans regarder en fait la provenance finalement de ces batteries électriques. Ce que fait le greenwashing, c'est nous détourner de la question centrale, qui n'est pas celle de l'environnement, même si l'environnement fait partie de cette question centrale, mais qui est celle du monde et de la société que nous voulons. Et il faut pouvoir répondre à cette question de quel monde allons-nous instaurer entre nous, quelle société allons-nous mettre en place. C'est ça la question. Et on ne répond pas à cette question uniquement en mettant sous cloche des espaces à travers des réserves, uniquement en adoptant des politiques de recyclage, même si ces outils ne sont pas à jeter par-dessus bord non plus. Mais la question centrale qu'il ne faut pas évacuer, c'est comment allons-nous vivre ensemble de manière juste, de manière égale, de manière où les dignités des uns et des autres sont respectées, où les histoires sont reconnues, où les cultures ont une place sur Terre, où il est possible d'habiter la Terre avec quelqu'un qui ne me ressemble pas, qui n'a pas les mêmes yeux. À mon avis, c'est ça les questions principales qu'il faut pouvoir aborder frontalement, en fait.
Quelque chose que je trouve dans le mouvement, c'est très simple, hein, mais cette prolongation, cette continuation, cette mutation des gestes qu'on peut trouver dans le premier salle avec la matière première qui est le plantation. Et ce que tu as dit, Marcos, de mettre sur cloche dans l'écotourisme, c'est toujours cette violence de le couteau qui sèvre, qui coupe, qui va définir, qui va déliminer un endroit et qui va le retirer de tout le reste. Donc cette diversité, cet ombril qui va le rejoindre à une diversité des écosystèmes, de l'isoler, de le mettre en prison, de cette mentalité qui se reproduit dans des formes très différentes, mais c'est toujours cette question de extraire, isoler, contrôler et pratiquer ces seeds dans un territoire qui est cadré. Et je pensais, c'est différent, mais des mouvements de guerre dans le passé, on a cette technique de terre brûlée. Et en entendant parler de cette pesticide, c'est la même chose. C'est de aussi couper, faire un sabre, faire couper entre l'être humain et la terre qui peut nourrir pour le déviser. Donc cette continuation de violence par la séparation semble être un peu au cœur de cette question impériale, coloniale, capitaliste. En tous les cas, c'est le même mouvement qui grandit, qui mature avec nous, et qui prend des formes différentes, mais le point de départ me semble être beaucoup de ça. Cette idée de vraiment couper, c'est simple, hein, mais juste une remarque que j'avais. Et j'avais une question, je ne sais pas si vous pouvez ou voulez répondre, mais on parlait beaucoup de la culture paysan, et je me demande quelle différence on pourrait faire entre la culture paysan et le marronnage, ou est-ce que c'est pour vous un peu la même chose? Ou est-ce qu'il y a des différences particulières entre nous?
Alors, je ne sais pas comment me prononcer là-dessus, donc je vais parler un peu, enfin j'ai réfléchi en même temps que je parle. Alors, la culture paysanne, pour moi, n'est pas à dissocier, de fait, avec ce qui serait une culture, que ce soit indigène ou noire ou autre, parce que c'est des modes de vie et qui sont compatibles, qui sont, enfin comment dire, c'est des choses qui interagissent, qui se connectent et qui sont, enfin comment dire, une personne, enfin comment dire, Par exemple, je suis colombien, donc j'ai une culture colombienne, mais ma culture colombienne, ma façon dont je me suis construit socialement parlant en tant que colombien est différente que de celle de, par exemple, un indigène Huitoto de l'Amazonie en Colombie ou d'un Guajiro qui est dans les déserts du nord de la Colombie. Et on a une perception totalement différente d'ailleurs de ce qui est être colombien, et d'ailleurs entre le monde rural et le monde urbain, c'est aussi différent. Donc je ne crois pas qu'on puisse diviser comme ça, genre il y a des frontières dans lesquelles les choses commencent et les choses s'arrêtent. C'est plutôt des membranes perméables entre elles et qui d'ailleurs sont interdépendantes.
Et si on reste sur cette question d'habiter la terre, si on faisait un modèle de plantation, le colonialisme, le impérialisme, c'est une façon. Après, la culture paysanne, c'est peut-être une autre. Je ne sais pas si une différence. Habiter la terre de manière maro et habiter la terre de manière paysan. C'est une question que je me pose.
Pour répondre à ta question, il y a une différence au moins historique qui est importante de noter, qui est que le maronnage tel que l'on désigne aujourd'hui, historiquement, vient d'un refus de l'esclavage. L'esclavage négrier, c'est-à-dire cette forme de travail forcé associé à une hiérarchie raciste des différents peuples de la Terre. Et cela a des conséquences dans la façon même de vivre l'expérience de la Terre quand on est marron. Dans plusieurs pays, États, qu'on soit en Jamaïque, qu'on soit aux États-Unis, en Guyane ou Suriname, 16e, 18e, 19e siècle, le simple fait d'être de couleur de peau noire faisait que être vu, c'était être vu hors de la plantation, c'était un crime. Donc c'était suffisant pour pouvoir être ramené. Et ça veut dire qu'il y a parfois des conséquences. Comment on s'organise? Est-ce que quand tu pars du camp marron, est-ce que tu vas aller nous dénoncer? Est-ce que du coup, alors on peut te laisser partir? Donc il y a ces réalités. Si on veut changer de vêtements, si on veut trouver quelques outils qu'on n'a pas réussi à fabriquer sur place, il faut dire qu'il faut refaire une descente dans la plantation, risquer. Enfin, il y a une nature des risques qui est différente de celle que d'autres paysanneries ont connues, notamment en Europe, bien que ces paysanneries ont aussi eu leur lot d'oppression, de domination, de servage, etc., mais qui ne sont pas exactement identiques. Et donc, du coup, le marronnage, pour moi, a quand même cette opposition frontale au racisme, à la question coloniale et à l'esclavage. Que parfois, pour autant, les formes mises en place à travers le rapport aux non-humains, aux animaux, aux plantes, le rapport à la culture, à la terre, peuvent faire écho à une culture paysanne. En fait, donc il y a des porosités qui ne sont, il n'y a pas une identité, et c'est pour ça que à l'abolition de l'esclavage de 1948, certains marrons ont participé à créer ces paysanneries qui existent, qu'on se trouve en Haïti, qu'on se trouve dans les mondes de la Martinique.
Quand on différencie habiter marron et la paysannerie. Ça m'interpelle parce que je me dis, habiter marron, c'est habiter en termes matérialistes, habiter comment? Est-ce que un habiter marron, c'est sans cultiver, ou est-ce que c'est avec cultiver? Et dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on dissocie la paysannerie, qui est un rapport au territoire de production, mais culturel aussi, mais qui est propre à chaque territoire et à chaque contexte, d'un habiter marron qui, lui, c'est pour ça que je ne les dissocie pas forcément. C'est, comment dire? Dans cette question, par exemple, de l'intersectionnalité, on a parfois, on pourrait avoir tendance, ou parfois, à oublier l'aspect matérialiste de la chose. Mais j'ai envie de dire que soit tu es dans un rapport de production, soit tu es en gros chasseur-cueilleur, soit tu es cultivateur, soit tu es la forme moderne d'aujourd'hui qui est consommateur. Tu consommes, c'est tout. Alors là, j'ai vu un peu rapide, je suis en train d'inventer sur le tas, mais ce que je suis en train de dire par là, c'est que la paysannerie, elle existe en Colombie, chez les communautés noires en Colombie, comme chez les communautés indigènes en Colombie, comme chez l'ancien producteur de tous ces petits villages qui ont été disparus ici en Europe avec la déstation agraire, et c'est des cultures paysannes différentes, mais qui ne sont pas en opposition de fait. C'est-à-dire, pour moi, ça ne peut pas être séparé, quoi.
Il y a une thématique qui était en exposition aussi, mais qui existera ou pas dans cette distinction que je ne sais pas pour séparer, mais de voir comment les modes sont peut-être différents, de façon de les formes de paysannerie, si on veut, peut-être différentes. Ces questions de visibilité, obscurité, et puis ces questions effectivement de cultiver de manière visible, accessible à toutes les différentes infrastructures, ou quelque chose qui est plus peut-être tissé pour une question de protection, mais aussi peut-être aussi une cultivation plus biodynamique, entre guillemets, plus avec des cultures qui ne sera pas cadréage, qui ne sera pas une culture visible et définie et délimitée, mais plus hétérogène, je ne sais pas. C'est une question, c'est quelque chose que je pose plus comme philosophique et pratique aussi, pour voir s'il y a une différence, pas entre les personnes comment elles habitent la terre, mais la façon de penser, être en connexion, en relation avec la terre.
Je pense qu'il n'y a pas à dissocier, mais à discerner en fait. C'est vrai, voilà. Il n'y a pas nécessairement d'opposition, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et quand tu dis qu'il y a une paysannerie qu'on retrouve dans des communautés marrons et ailleurs, pareil, le marronnage ne se restreint pas à la question de la paysannerie. Et qu'il y a des façons de, on va dire, habiter la terre en marron qui ne sont pas directement liées à la question de la paysannerie. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les résistances à la question du chlordécone, ce pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe, il y a des références au marronnage par des personnes qui elles-mêmes ne sont pas paysannes, mais qui vont se dire, tiens, je vis ma lutte et mon opposition à ce mode d'habiter la terre comme marron, je fais référence à mes ancêtres marrons. Là-dessus, peut-être ça fait écho à ce que... Mais pareil, il y a aussi ce rapport à la visibilité, ce rapport au fait qu'il y a des choses qui sont cachées, pour pouvoir se préserver un espace de vie, un espace qui... Ça ne veut pas dire que cet espace, ça va pouvoir renverser tout le système, mais ça va être un espace de soins, un espace où on préserve des choses importantes à la vie sur plusieurs générations, qui va donner des forces pour pouvoir concrètement lutter pour une vie meilleure, pour un monde meilleur. Et je crois qu'il y a quelque chose qui doit être dit, de cette histoire pluriséculaire de la déshumanisation qu'ont subi ces personnes, et qu'ont subi encore. Il n'y a qu'à voir, en 2021 même, enfin en 2020, les formes d'agression, de violence policière que subissent certaines personnes noires en France. Et en fait, on ne comprend pas ce qui se passe si on fait pas référence à un imaginaire du corps noir, qui n'est pas censé parler, qui n'est pas censé souffrir, et que quand même la personne dit « écoutez, j'ai mal, écoutez, je n'arrive pas à respirer », on n'entend pas ça comme étant les paroles d'un être humain. Et tout autant important est de reconnaître cette histoire de déshumanisation, il est important de reconnaître les inventivités, les créativités pour exister, pour se construire, pour construire une famille, pour exercer des métiers, des arts, face à cette structure de déshumanisation qui a caractérisé, qui a créé le contexte d'où émerge le marronnage. Mais c'est en reconnaissant ces différences qu'on peut tisser des alliances tout aussi fertiles, tout aussi créatives, tout aussi fortes aussi politiquement.
La question au départ, c'était est-ce qu'on peut différencier l'habité marron avec la culture paysanne, la culture marron avec la culture paysanne, c'était ça le...
La particularité, ouais. De voir, parce qu'on parlait beaucoup de peut-être pas des paysans, mais et après on a un peu parlé de marronnage en même titre, je me dis bon, il y a des choses qui se refèrent, mais en même temps j'avais l'impression qu'il y avait une différente quelque chose une nuance avec le ce que moi je pensais dans cette position un peu comme une idée de marronnage, une action de marronnage qui peut être dans l'histoire mais aussi dans le maintenant, qui est un peu différente quand même de paysan aussi, parce qu'il n'y a pas ces côtés plutôt aussi résistance politique qui et j'entends très très présent dans le des paysans en Colombie aussi, parce que ce n'est pas dissociable des choses, hein, c'est en elle, c'est le celui, mais que c'est pas souvent cultivé de. Je n'arrive pas à bien articuler pourquoi, mais pour moi, il y a des différences historiques, oui, bien sûr. Mais je pense, j'ai une intuition comme il y a une façon d'être avec la Terre qui est peut-être un peu différente.
Bon, il y aura toujours une pluralité de façons de définir ce qu'on entend comme étant la paysannerie, comme de définir les différentes expériences du marronnage. Mais si important aujourd'hui de reconnaître les spécificités de l'habité marron, c'est précisément parce que, et je crois que c'est entre autres ce à quoi contribue ton exposition, c'est que le marronnage n'a pas été reconnu même comme une forme de paysannerie, ou alors même comme étant une forme de résistance digne d'intérêt. Et pourquoi ça n'a pas été reconnu? Parce qu'il y a cette construction de la modernité qui n'a pas voulu valoriser et reconnaître comme être humain des parties de la population, notamment les peuples noirs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de reconnaître cela comme étant non pas une différence qu'on va opposer à l'autre, mais comme de la même façon dont on a différentes pratiques, différentes cultures, différentes histoires, quelque chose qui est important de prendre en compte sans nécessairement être un obstacle aux alliances. Mais quelle est la place de l'enseignement du marronnage dans un pays post-colonial et post-esclavagiste comme la France? C'est une question à se poser. Moi je me demande combien d'autres personnes d'Ivry etc. vont venir ici, vont voir l'exposition, et se dire, ah, tiens, le marronnage, oui, je sais ce que c'est. Que sait-on du marronnage qui a eu lieu dans les anciennes colonies françaises? Et le fait même qu'il y a un maintien de cette ignorance est notre exemple de la raison pour laquelle il faut parler de cette spécificité.
Pour moi, ça opère dans deux zones. Il y a la spécificité historique et vécue. Et un autre qui peut être plus partagé, qui est l'acte de sortir d'un système qui est néfaste, qui est violent, d'essayer de construire autre chose. Et pourquoi pas se mettre au point de départ d'un héritage marron. Ça peut être un autre héritage, mais n'importe. On se rejoint toujours en même lutte, finalement. C'est d'habiter de manière juste, etc. Mais nos racines au milieu ou autre chose peut être un peu différent. Donc la question c'est de marronnage comme une grande un mouvement, on peut dire, que tout le monde peut adhérer si elle veut, mais en même temps quelque chose peut dire mais dans la vie c'est comme ça, en Virginie c'est comme ça, et là ça c'est, on peut nommer des personnes comme le nom de la dame qui accompagne cette question de riz, c'est une personne qui est définie, qui est spécifique, mais son acte est l'acte de tout, son généalogie, et quelque chose qu'on peut tous espérer avoir un petit terrain derrière chez nous, dans notre potager, pour pouvoir se nourrir de manière spirituelle, mais aussi nutritive. Pouvoir être autosuffisant.
Je te rejoins complètement dans l'idée que même s'il y a, on va dire, une réalité historique au marronnage, que le marronnage dépasse largement les bornes historiques et qu'il est important de reconnaître le marronnage comme philosophie. Chose que la philosophie européenne n'a pas fait à ce jour, mais pourtant de reconnaître... Et c'est comme ça qu'on peut dépasser, on va dire, les contextes géographiques précis, les contextes historiques précis, mais reconnaître en fait qu'il y a une véritable philosophie qui n'est pas exactement une opposition complète, totale, mais en même temps qui rend possible un ensemble de choses et qui a un ensemble de travaux artistiques, philosophiques, politiques à mener dans ce sens.
On différencie... Enfin, un truc qui m'interpelle quand on essaie de différencier marron avec paysan, c'est un peu comme si on essayait de différencier marron avec féminisme ou marron paysan avec féminisme. Pour moi, c'est des choses qui sont tellement différentes. C'est-à-dire que pour moi, on a besoin dans nos sociétés aujourd'hui d'être féministe, marron, écologiste, paysan. C'est-à-dire que la culture paysanne, ce n'est pas seulement comme le marron, c'est pas seulement moi j'ai envie de me revendiquer féministe même si je suis pas femme, j'ai envie de me revendiquer marron même si je suis pas noire, et j'ai envie de me revendiquer de la lutte paysanne même si je suis pas paysan, mais parce que je veux, quand je consomme une tomate, pouvoir la consommer en me disant je suis pas en train de tuer un paysan en la consommant. Et parce que quand j'aurai un enfant, que ce soit garçon ou fille ou j'en sais quoi, j'ai envie qu'il ne soit pas menacé, ni que ça devienne un reproducteur des modèles machistes, etc. Donc, pour moi, c'est des luttes qui sont, comment dire, différentes, mais qu'ensemble composent un gâteau qui est celui qu'on veut, quoi. Enfin, du coup, c'est pour moi difficile de considérer cette notion comme ça. Pour moi, j'arrive pas à différencier.
Pour moi, la différence n'est pas un obstacle à l'alliance. Elle en est plutôt la condition. Parce qu'on parle pas de. C'est comme, voilà, je dis, ben, tu es qui Marcos, Caponi, Anna, voilà. Et on a des noms différents. Mais ici, là, on peut faire une alliance autour de la table. Et la différence n'est pas. Et puis pareil, on se définit différemment selon le temps. Mais c'est juste un état de fait. Hein. C'est qu'il y a des histoires différentes, des cultures différentes. Il se trouve que certaines cultures n'ont pas eu, on va dire, la possibilité d'être reconnues en tant que telles, y compris les cultures marronnes. Mais la reconnaissance de ces cultures, ces différences, encore une fois, n'est pas un obstacle aux alliances. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a eu des courants. Nous sommes tous métis, nous sommes tous, etc., qui ont voulu masquer les différences pour pouvoir, au final, perpétuer ou reproduire des formes de hiérarchie de domination au sein de certains mouvements. Donc je pense qu'on dit les choses différemment, mais au final, on se rejoint sur cette idée de créer des alliances multiples sans nécessairement effacer... il y a par exemple des questions de féminisme qui se posent au sein des marrons comme au sein des paysans. Il y a des questions marrons qui se posent au sein des paysans. Voilà. Mais voilà, créer des alliances en maintenant cette diversité, je pense, est tout aussi important. Moi, je vais bien dire deux, trois mots pour conclure, en faisant écho à la fois à ce qui se passe en Colombie, mais aussi ce qui se passe aux Antilles sur la question du chlordécone. Pour rappel, c'est un pesticide qui a été utilisé pendant 20 ans en Martinique et en Guadeloupe, et qui est extrêmement rémanent. Il fait qu'aujourd'hui, on prédit qu'il peut rester dans les sols pendant plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles. On espère qu'on a de très bons chercheurs, notamment Sarah Gaspard, qui ont trouvé des solutions pour dépolluer auparavant. Mais aujourd'hui, on a un mouvement, on a un lianage contre le chlordécone, on a un comité d'ouvriers agricoles contre les pesticides qui lutte pour non seulement dépolluer les terres, mais aussi pour pouvoir prendre soin d'eux-mêmes. Donc des ouvriers qui ont été marginalisés socialement et qui aujourd'hui se retrouvent avec des petites retraites, qui ne peuvent pas payer des frais de santé, qui au départ n'avaient pas été salariés. Et aujourd'hui, cela fait, on a utilisé entre 72 et 93, cela fait près de 50 ans que ce produit a été utilisé, on ne l'utilise plus, mais il est encore dans les sols. Et en 50 ans, il n'y a eu aucune condamnation en justice, compris que ce soit pour l'empoisonnement qu'ont subi Martiniquais et les Guadeloupéens, que ce soit pour la violence qu'a subi la terre. Et ce cas-là, j'attire l'attention sur ce cas-là parce que, de la même façon que la Colombie, la Martinique et la Guadeloupe ne sont pas des monstres, des sociétés monstrueuses en dehors du monde. Que habitant Paris, habitant Marseille, habitant Rouen ou autre, on est lié en fait à ce qui se passe dans ces différents territoires. Que l'habité colonial est aussi cette hiérarchie qui se place entre différents lieux. Et moi, ben oui, j'ai envie que quand quelqu'un passe et aille voir la première scène avec les plantations de canne à sucre, se demande mais à quel prix finalement aujourd'hui j'ai mon café, à quel prix j'achète une banane de Colombie ou de Martinique, à quel prix j'ai mon sucre. Et pareil, cela ne veut pas dire que je souhaite rendre coupable toutes les personnes qui y habitent et qui finalement n'ont pas d'autre choix parfois que d'avoir accès à ces produits, mais éveiller à cette conscience que depuis l'ici j'habite avec l'ailleurs, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement peut-être qu'on peut trouver des formes d'action, et c'est là que les alliances sont intéressantes aussi à faire. Comment puis-je soutenir les militants ou le peuple colombien d'ici ? Comment puis-je soutenir le peuple martiniquais guadeloupéen qui est en train de se confronter quotidiennement avec cette crainte d'être contaminé avec des effets sanitaires, cancer de prostate, peut-être endométriose, peut-être d'autres formes de cancer, etc. Bah, comment ensemble on peut se dire, bah, tiens, oui, ce qui nous retrouve rassemble est plus important et qu'on peut trouver une manière de faire advenir un monde plus juste, un monde plus vivable à la fois humainement, socialement, politiquement, mais aussi écologiquement. Donc voilà, c'est l'appel que je lance ici.
Bah, je rejoins cet appel en disant oui, qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a un besoin de dépasser la condition dans laquelle on nous a mis de consommateurs, de nous rappeler qu'on peut ne pas être consommateur, mais on peut être citoyen actif de la vie politique et non pas passif, et que du coup, dépasser aussi cette idée que la seule façon de combattre serait de consommer ou ne pas consommer. Et donc, que la seule action qu'on pourrait mener, c'est celle du boycott. Non pas que le boycott soit pas bien sûr, moi je boycotte des trucs que je boycotte moi, mais de considérer que ça, en soi, ce n'est que se contraindre à ce en quoi nous a cantonné en tant que consommateur, mais qu'en tant que citoyen actif, on peut être dans le politique et donc s'organiser. Et donc, l'organisation sociale comme base essentielle pour pouvoir changer les choses. C'est-à-dire, organisons-nous, définissons qui on est, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut construire une société, et rallions-nous effectivement avec tous ceux avec lesquels on a une vision compatible pour le faire.
Les appels sont lancés.